RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous, c'est tous les jours en direct sur RMC, RMC Story. Vous prenez la parole, bien sûr, au 32-16 et vous avez un SMS à envoyer. C'est liste par SMS au 732-16. Pourquoi ? Parce que la Coupe du Monde approche. Avec la Coupe du Monde, on vous fait jouer, gagner le pack Coupe du Monde, le pack Coupe du Monde. C'est notamment le maillot des Bleus, c'est la Coupe du Monde, la réplique en Lego. Vous avez un vidéoprojecteur pour pouvoir suivre les matchs sur écran géant. Vous avez le ballon de la Coupe du Monde ou peut-être le chèque de 10 000 euros pour les gagner. Donc vous avez 5 minutes pour m'envoyer liste par SMS au 732-16. Tirage au sort là dans un quart d'heure en direct. On aura même les cadeaux là avec nous. J'espère que vous aurez les 10 000 euros. Le pack Coupe du Monde, c'est très bien aussi pour pouvoir soutenir les Bleus, qu'ils aillent le plus loin possible et qu'ils remportent cette Coupe du Monde qui, je vous le rappelle, est au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On n'y est pas encore. Un petit quart d'heure à attendre pour avoir le gagnant. On accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Nous sommes avec Maud Bréjon, ministre déléguée à l'énergie et porte-parole du gouvernement. Bonjour.
Bonjour à tous.
La clim, c'est d'extrême droite ?
Non. Et c'est un vieux débat qu'on a chaque année pour ou contre la clim, en réalité.
Non, c'est pas ça, parce que mardi, Emmanuel Macron a réuni l'équipe de France de l'électricité.
Oui.
Et je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de lancer un grand plan clim. Moi, je comprends pas que les salles de nos enfants ne soient pas aujourd'hui climatisées, puisque la canicule revient chaque année. En plus, elle revient de plus en plus tôt lorsqu'il y a encore école. Bah non.
D'accord.
Donc je me suis dit, c'est comme c'est Marine Le Pen qui en parle, ça doit être d'extrême droite pour le gouvernement.
Non,
donc,
vous êtes taquin. La clim, ce n'est pas d'extrême droite. D'ailleurs, c'est pas une question de droite ou de gauche. Nous, on dit une chose simple. D'abord, avant de parler de climatisation, faut faire de la rénovation énergétique. Parce que climatiser des passoires thermiques, vous comprenez bien que ça n'a aucun sens. Et c'est notamment ce qu'on appelle le fonds vert. Il y a 1 milliard d'euros qui sont dédiés à accompagner ces transitions dans le secteur public. Et ensuite, moi, je ne suis pas contre la climatisation. Je dis juste qu'il faut l'aborder avec parcimonie. Il y a des endroits qui doivent être prioritaires. La question des écoles, la question des EHPAD, les hôpitaux, les maternités. Et donc, notre rôle, c'est de permettre cet accompagnement-là. Et puis ensuite,
Écoles sont non seulement des passoires thermiques.
Et c'est pour ça qu'on a mis en place, il y a plusieurs années déjà, un fonds dédié avec les collectivités territoriales pour permettre de faire les travaux nécessaires. On a aussi mis beaucoup d'argent dans les hôpitaux et dans la rénovation.
Mais Maud, on chauffe bien l'hiver et parfois des passoires thermiques. Alors pourquoi on ne les rafraîchit pas ces mêmes lieux l'été ?
Je suis complètement d'accord. Je dis juste qu'entre ceux qui vous disent il faut mettre la clim partout et ceux qui vous disent il faut couper la clim partout, il y a un juste milieu.
Mais comment on fait rien dans ce domaine ?
Après, il y a une question qui se pose. D'abord, quand on parle des particuliers, est-ce à l'État de financer les climatisations chez l'ensemble des particuliers ?
Non.
Probablement pas. Et quand vous regardez le coût d'une climatisation, si on se dit les choses, on n'en a pas les moyens et ce n'est pas le rôle de l'État. Ensuite, il y a des fonds, je le redis, qui sont mis en place, qui permettent cette transition énergétique dans les bâtiments publics, qui permettent cette rénovation énergétique, et on continuera à accompagner. Et moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse aller plus loin. Alors, ça nécessite de la marge budgétaire, chacun le comprend, parce que ce qu'on est en train de vivre là, en fait, on va le vivre chaque année. Et donc, il y a d'une part ce qu'on fait pour lutter contre le changement climatique, et puis ensuite, il y a ce qui est nécessaire en matière d'adaptation.
Là,
et donc, aujourd'hui, être contre la clim par dogmatisme, ça n'a plus aucun sens.
Aujourd'hui, on vit une période... Enfin, là, en ce moment, cette semaine, un épisode caniculaire assez exceptionnel parce que très précoce dans l'année. Le gouvernement, il sert à quelque chose ? Parce qu'on se pose la question, là, vous avez... Sébastien Lecornu a convoqué une réunion qui aura lieu aujourd'hui, cet après-midi. L'épisode a démarré ce week-end. Donc, on se dit, à quoi ça sert tout ça ?
Il y a deux choses. D'abord, le gouvernement sert à accompagner cette transformation-là. Et ça prend du temps. Moi, je le vois dans ma circonscription, à Antony. Il y a des rénovations énergétiques d'écoles qui sont entamées depuis plusieurs années maintenant par le maire, notamment avec l'appui de fonds publics. Mais ça prend du temps parce que faire la rénovation d'une énergétique d'une école, surtout quand ces écoles sont assez grandes, ça prend plusieurs mois et donc tout ça s'étale sur le temps long. Ça coûte de l'argent. Là encore, l'État est aux côtés des collectivités territoriales. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Probablement. Et puis ensuite, il y a ce qu'on fait pour aider les Français à passer à l'électrique, ça c'est une autre question, mais c'est aussi le rôle qu'est le nôtre, parce que il y a un enjeu de confort, et puis il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Et donc quand on aide les gens à installer une pompe à chaleur, ça a deux vertus. D'une part, ça coûte moins cher que le gaz à l'utilisation, et d'autre part, c'est réversible, ça permet de refroidir votre maison.
L'électricité, ça
et pour ça,
ça beaucoup.
Et pour ça, on a mis en place des aides extrêmement importantes, notamment pour les familles les plus précaires.
Oui, mais l'électricité, le prix de l'électricité ne baisse pas vraiment.
Alors,
et cela, je ne comprends pas non plus, parce qu'en même temps, on nous explique qu'aujourd'hui, on est en surproduction d'électricité. C'est-à-dire qu'on produit trop d'électricité, comme ça ne se stocke pas, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Pourquoi les prix ne s'écroulent pas? On devrait payer vraiment l'électricité moins cher, ce qui d'ailleurs pousserait les Français à basculer à l'électrique. Si tout d'un coup, c'était vraiment très bon marché l'électricité, vous n'auriez pas besoin d'aider les gens à acheter des pompes à chaleur ou des véhicules électriques. On irait tous, sauf que là on se dit bah non, un véhicule électrique ça coûte plus cher qu'un véhicule thermique, et la pompe à chaleur ça coûte plus cher que la bonne vieille chaudière à gaz.
D'abord, l'électricité c'est 30 à 50% moins cher en France qu'en Italie ou en Allemagne.
Bah oui,
mais c'est
normal.
Pardon, c'est des comparatifs qui sont bons à rappeler, précisément parce que nous on a le nucléaire
aussi, c'est pareil,
et parce qu'en Italie ils tournent essentiellement, en tout cas notamment, au gaz. Et donc quand le gaz augmente, ils prennent ces hausses de plein fouet.
C'est encore trop cher.
Nous c'est pas le cas. Pour arriver à maîtriser les coûts, il faut produire davantage nous-mêmes. C'est ce qu'on fait avec le nucléaire, c'est ce qu'on fait avec les énergies renouvelables. Mais je mets un point quand même sur la table. Tout ça, ça coûte de l'argent. Relancer des centrales nucléaires, développer de nouvelles centrales nucléaires, en construire d'autres. Le programme de 6 EPR2, c'est 70 milliards d'euros. Donc ne laissons pas penser aux gens que tout ça est gratuit. C'est normal qu'il y ait un coût derrière.
Donc vous le plan plutôt fermer des centrales nucléaires au début du macronisme.
Et il y a eu cette volonté de réduire la part du nucléaire. Je pense qu'on peut se dire les choses aujourd'hui.
C'était
une erreur. Et la fermeture de Fessenheim était une erreur. Aujourd'hui, il y a depuis plusieurs années maintenant.
Ceux qui disaient que c'était une erreur à l'époque étaient traités
Je modérerai une toute petite chose. Si on peut recontextualiser un peu. 2011, il y a eu Fukushima, ça a énormément marqué les esprits. 70% des Français, 70-75% des Français étaient favorables à la sortie du nucléaire.
Ouais, il y avait l'émotion.
On ne pouvait pas complètement ignorer cette réalité de l'opinion publique. Et le nucléaire était beaucoup, beaucoup plus dur à défendre en 2015-2016 que ce que ça l'est maintenant, où il y a une forme de consensus, en tout cas de très large accord autour de la question.
Ah, il y a une manipulation de Fukushima,
ensuite,
parce que Fukushima, ce n'était pas un accident nucléaire,
non,
c'était un tsunami.
Je suis bien d'accord, force est de constater que ça a quand même beaucoup marqué les esprits à l'époque.
Ouais.
Ensuite, on est en train de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. On les passe de 40 à 50 ans, peut-être demain de 50 à 60 ans. Ça s'est entamé depuis plus de 10 ans maintenant, et ça va nous permettre d'utiliser bien plus longtemps le parc qui fonctionne aujourd'hui. Et puis on commence à construire de nouvelles centrales. J'étais il y a quelques semaines avec le président de la République à Penly. Quand vous arrivez à Penly, il y a un chantier qui a démarré, qui est très impressionnant. On a commencé l'ensemble du terrassement sur une surface qui est absolument énorme. Je vous invite à regarder sur Internet, il y a des images. Et donc c'est vraiment la preuve qu'on a le chantier du siècle. Et moi je suis convaincue qu'on va y arriver. Ça n'exonère pas de développer les énergies renouvelables, mais c'est une compétence française extraordinaire. On sait le faire, et je crois que on a du mal à être fier parfois en ce moment dans ce pays, mais on peut être fier de ce qu'on est capable de faire dans le nucléaire et d'être un leader mondial.
Ça sera quoi le mix énergétique? Parce que finalement, la maîtrise du nucléaire, on l'a, et ça, c'est vraiment 100% français.
En revanche,
les panneaux solaires ou la fabrication des éoliennes, c'est étranger. Donc, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à être 100% nucléaire et laisser tomber ce qu'on achète à l'étranger, quoi, en fait?
D'abord, on est en train de développer des usines en France.
Oui, l'uranium qu'on extrait à l'étranger, bien sûr.
On est en train de développer des usines en France pour les éoliennes, pour les panneaux photovoltaïques. On avance.
Je rappelle, vous êtes ingénieur nucléaire.
Oui.
Donc je me demande si au fond de vous-même, vous n'êtes pas 100% nucléaire.
Et vous savez, les ingénieurs nucléaires et les ingénieurs en général qui ont un peu étudié la question savent bien qu'on a besoin des deux. D'abord parce qu'une centrale nucléaire, ça prend du temps à construire. Et donc d'ici à ce qu'on arrive à démarrer les 6 plus 8 futurs réacteurs nucléaires, on va avoir besoin de produire. Et donc on développe des énergies renouvelables.
Et quand on aura les autres réacteurs nucléaires, on pourra se passer du renouvelable.
On a besoin des deux. On a besoin des deux, d'abord parce que c'est sain de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on l'a vu quand on a eu un problème sur le parc nucléaire il y a 3 ans. On était bien content d'avoir des énergies renouvelables qui produisaient.
Oui, mais là on aura plus de centrales.
Oui,
on n'aura pas besoin du renouvelable.
On produit trop d'électricité. C'est un paradoxe.
Je vais essayer de résumer. Vous avez un parc existant qui finira par s'arrêter quand bien même vous le prolongez à 70, 80 ans, il finira par s'arrêter. Vous allez construire de nouveaux réacteurs. Vous ne pouvez pas en construire 30 ou 40 d'un coup parce que on n'a pas les ressources suffisantes et parce que tout ça prend beaucoup de temps. Et donc, en parallèle, vous développez d'autres types d'énergie. On parle des énergies renouvelables, mais c'est par exemple le cas de l'hydraulique. Les barrages qu'on a dans la vallée du Rhône, par exemple. Mais ça, c'est une vraie richesse. Et donc, on en a besoin. Qui oppose l'hydraulique au nucléaire ? Personne. Chacun voit bien qu'on a besoin de diversifier notre production. Voilà. Et puis, sur la question des compétences françaises sur les énergies renouvelables, quand vous regardez aujourd'hui ce que font des grands champions français comme EDF ou comme Engie pour construire des éoliennes en mer, c'est absolument formidable. C'est de l'emploi dans les territoires. Vous allez à Noirmoutier, vous allez à l'Île-Dieu. C'est des Français qui travaillent, c'est des techniciens de chez nous. C'est de l'industrie locale qu'on arrive à déployer.
C'est joli. Les éoliennes en mer.
Ça, je laisse à chacun le soin de le dire. Charles. Mais certains vous diront qu'une centrale nucléaire, c'est pas joli,
non,
vous
c'est
voyez.
Pas
donc, à la fin, il faut bien produire de l'électricité.
J'ai quand même le sentiment que on est toujours dans, typiquement sur cette question de l'énergie. Je vous faisais remarquer qu'au début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron était contre le nucléaire. Il était tout fier de poster contre Donald Trump « Make our planet great again ». Et puis finalement, et puis Madame Poisson, qui était à votre portefeuille, je crois, annonçait des fermetures de centrales nucléaires. Et ça lui valait les éloges de la presse bobo qui trouvait ça formidable. Et puis bon, finalement, la réalité nous a rattrapés. Et on s'est aperçu que cette politique n'avait pas de sens. Mais résultat, on a fait un peu de surplace, finalement. Parce que quand on est d'abord contre, puis pour, entre-temps, il se passe pas grand-chose. Et je crains que ça ait été un peu comme ça sur tous les sujets. Donc, ma question ou ma remarque, là, j'ai lu que le jeune Attal avait écrit au président Macron pour lui dire que lui poursuivait la politique du dépassement et qu'il était le seul à le faire. Moi, je pense que la politique du dépassement, c'est le surplace que je viens de décrire. Je pense que quand on prétend dépasser les clivages, etc., à la fin, en fait, on n'embarque pas le pays dans une direction. Et c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. On n'a pris, en fait, aucun chemin. Vous êtes, j'apprends ça, ingénieur nucléaire, c'est à mettre à votre crédit, je vois ça très favorablement.
Du coup, on a eu raison de la mettre à l'énergie,
alors. Est-ce que vous considérez que cette histoire de dépassement est toujours quelque chose de valable, a toujours son intérêt, ou est-ce que vous pensez plutôt, pour l'échéance qui arrive l'année prochaine, qu'il est peut-être quand même maintenant temps de choisir, pas forcément entre la droite et la gauche, mais quand même de prendre une direction assez prononcée dans un sens ou dans un autre ?
Je pense qu'il faut un projet cohérent. Et que ceux qui vous disent « on va aller de Raphaël Glucksmann à Bruno Retailleau », par exemple, se mettre le doigt dans l'œil, tout ça n'a absolument aucun sens. D'abord parce que l'un et l'autre n'accepteront jamais de travailler ensemble pour une raison assez simple et
assez
saine. Est-ce que
vous êtes Retailleau ou Glucksmann?
Ils ne sont pas d'accord. Moi, je suis davantage Retailleau que Glucksmann, mais voilà. Je respecte ceux qui peuvent être l'inverse.
Alors, j'ai envie d'aller plus, d'affiner les choses.
Est-ce que
vous êtes plus Attal ou Édouard Philippe?
Je dis une chose simple.
Non, mais attendez,
je vais répondre à la question.
Non, mais simplement, parce qu'on va l'oublier après. Vous dites Glucksmann, Retailleau, choisis Retailleau. Je resserre un peu le spectre ici. Je vous dis, vous êtes plutôt Philippe ou Attal ?
Moi, je me considère plutôt de centre-droit. Voilà. Je ne me définis pas vis-à-vis de personne.
Non, mais plutôt du côté
de droite. Voilà, c'est historiquement politique. Et encore aujourd'hui, là où je crois, je me situe. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à réunir ceux qui, au fond, gouvernent ensemble, d'ailleurs, depuis 2 ans, à savoir la droite et ce qu'on appelle le centre.
Il y a aussi des anciens socialistes.
Je vais vous dire, on parlait de Bruno Retailleau, j'ai été porte-parole de Michel Barnier. Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur. Un grand homme. Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur de Michel Barnier. Dans ce gouvernement, il y avait des ministres macronistes et on arrivait à travailler ensemble. C'est bien la preuve que c'est possible.
On arrive à le faire
depuis 2 ans. Je suis encore au gouvernement avec des ministres LR. Le premier ministre
lui-même
issu de la droite.
Que vous savez pas Michel Barnier.
Donc je crois qu'il faut de la cohérence dans le projet. Je pense que au bout du bout, avoir une candidature Attal, une candidature Philippe et une candidature Retailleau, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà.
Ouais. Est-ce que ça a du sens d'avoir un homme de droite comme Lecornu à Matignon, qui deal avec les socialistes, qui suspend une réforme des retraites, la seule réforme. Est-ce que ça, c'est pas ça qui brouille aussi et qui, pendant trop longtemps, a brouillé le paysage politique, ce qui fait que la seule offre d'alternance possible, désormais, c'est les offres radicales. Et donc, soit d'un côté Bardella, Le Pen, ou soit de l'autre Mélenchon.
Oui,
Donc, vous avez mis les électeurs français dans un piège terrible. Et il aura le choix en 2027, soit, de reconduire le Bloc central par défaut, parce qu'il ne veut quand même pas de Mélenchon et de Bardella, soit d'aller, bien sûr, c'est Mélenchon. Bardella, mais enfin, donc, beaucoup vont se dire, par défaut,
d'abord,
je vais devoir voter Philippe.
D'abord, il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ça ne soit pas par défaut, et il ne tient qu'aux candidats, de par les projets qu'ils vont porter et de par leur incarnation personnelle, de faire en sorte que ce ne soit pas par défaut. Il reste 12 mois. Ensuite,
par défaut, ça donne pas une majorité.
Vous m'interrogez sur ce qu'on fait au gouvernement avec Sébastien Lecornu. Est-ce qu'on ferait différemment si on avait une majorité absolue? La réponse est oui, indéniablement. Est-ce qu'on a une majorité? La réponse est non. Indéniablement. Et il y a eu une dissolution. Les Français ont voté quoi qu'on en pense.
Vous allez chercher sur votre gauche la majorité.
Les Français ont voté. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le socle commun, donc la droite et le centre, c'est 200 députés à l'Assemblée nationale. Pour avoir une majorité, il en faut 289. Chacun comprend bien qu'il faut qu'on trouve des forces politiques avec lesquels on soit capable de discuter.
Ouais, en même temps, c'est la faute de la présidence.
On n'a pas d'autre choix. Arithmétiquement, il est bien nécessaire, si on veut faire passer un budget, par exemple, qu'on arrive à discuter avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous.
Vous restez avec nous, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'énergie. La discussion continue. Question de Joël Dagosséry, Laura Vartan-Martinez, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Avant de continuer de discuter avec la porte-parole du gouvernement et ministre délégué à l'énergie, Maud Bréjon, on a notre gagnant du jour, c'est Jean-Louis qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Jean-Louis de Seine-et-Marne. Alors mon cher Jean-Louis, vous avez envoyé liste par SMS au 732-16. Vous avez donc été tiré au sort. Alors on va voir ce que vous gagnez. Soit vous gagnez, tiens vas-y je te le laisse déplier Olivier, le maillot couleur statue de la liberté des Bleus pour la Coupe du Monde avec les deux étoiles. Soit vous, c'est-à-dire le pack Coupe du Monde avec la réplique en Lego de la Coupe du Monde et le maillot et le ballon de la Coupe du Monde plus le vidéoprojecteur, ça c'est le pack Coupe du Monde. Ou alors il y a les 10 000 euros. Mais pour ça, il faut choisir un joueur. Qui reste Louis Gerbier?
Il reste Konaté, Lucas Hernandez, Jean-Philippe Mateta, Ryan Cherki, c'est-à-dire le 3, le 21, le 15, le 6 ou le 24.
Et Lucas Digne aussi, il me semble.
Ah pardon, je ne l'avais pas vu, Lucas Digne.
Et Lucas Digne, qui vous choisissez Jean-Louis?
Eh bien, comme il a marqué un but hier en finale, je vais choisir Mateta, le 6.
Formé à la Berrichonne de Châteauroux, très bon choix.
On va voir, attends.
Alors, on va voir ce que vous gagnez Jean-Louis. Louis...
Ouais, je le sens bien, Châteauroux fait toujours plaisir.
Qu'est-ce qu'il a gagné?
Vous avez gagné le pack Coupe du Monde avec le vidéoprojecteur Samsung, le maillot officiel, le ballon et le trophée en Lego.
Génial, super.
C'est pour vous Jean-Louis. Vous allez pouvoir regarder la Coupe du Monde sur écran géant avec le vidéoprojecteur. C'est cool
génial.
Ça. Et le magnifique ballon. Il est beau ce ballon en plus à Coupe du Monde.
Ouais, je joue avec vos gamins.
Il est bien, il est cool. Voilà Jean-Louis, et le maillot des Bleus et le maillot de la Coupe du Monde. Félicitations, c'est votre fidélité au GG qui a été récompensée. Bravo, bien joué.
Merci,
et continue à jouer, à envoyer liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16.
Je tiens à signaler à nos auditeurs que j'ai rattrapé le ballon.
Wow. Tiens, Louis, le maillot. On peut le garder, le maillot, ou pas? Je regarde Catherine. C'est le tien.
Oh, Catherine, elle n'en a qu'un seul.
Bon, on reprend notre discussion.
Celle qui organise ce jeu.
C'est l'organisme. Mais
viens Catherine, allez, viens Catherine. On peut montrer Catherine quand même, c'est elle qui organise le jeu. Ici, viens.
Le ballon.
Non, mais c'est
allez,
parce que
en fait, il y a la caméra.
Depuis toutes ces années, tous les jeux que l'on fait, il y a une personne qui est derrière les jeux.
Mais si, c'est Catherine, viens.
Mais si, mais c'est toi.
Allez,
voilà. Et en plus.
Voilà, on vous présente Catherine. Les vacances Bellambra, c'est elle.
Avec
Catherine,
avec Séverine, avec.
20 ans. On se connaît depuis 20 ans ici à RMC. Voilà, bravo et encore merci de faire plaisir à tout le monde, Catherine.
C'est grâce à ça qu'elle part en vacances gratuitement, qu'elle a, elle a deux rétroprojecteurs chez elle.
Allez, on reprend notre discussion avec Maud Brégeon, la porte-parole du gouvernement, la ministre déléguée à l'énergie. Joël Dagosséry, est-ce que tu te remets en phase?
Oui, allez, on est parti. Moi, je suis comme Maud Brégeon, moi, je suis centre droit. Donc, je me dis que vous devez pas très bien dormir le soir parce que vu l'état des finances et de l'économie, j'ai regardé dernièrement sur le SMIC, par exemple, sur la hausse du SMIC, vous avez envoyé une facture de 2 milliards aux entreprises. Donc, quand on est de centre droit, est-ce que vous pensez que ça, c'est favorable à l'emploi, à l'économie, à la survie de nos entreprises? On est à près de 70 000 défaillances d'entreprises. On a le chômage qui a repris un coup, là, dans l'aile. Donc, j'ai pas très bien compris, en fait, la cohérence entre ce qui est affiché par Sébastien Lecornu, à savoir un soutien à l'employabilité, aux chefs d'entreprise, etc. Et cette petite facture de 2 milliards pour financer la hausse du SMIC.
Alors, là, on parle des allègements généraux. Il y a une augmentation du SMIC qui est une augmentation automatique qui n'est pas un choix du gouvernement. Et pour autant, on comprend qu'avec l'inflation, c'est une bonne chose pour tous les Français qui sont au SMIC et pour qui c'est en partie compliqué. On a fait le choix d'augmenter les allègements généraux dans le budget de l'année dernière. Donc, ne laissons pas penser que les entreprises trinquent année après année. On sera, je donne un exemple, qui vaut ce qui vaut, mais lundi prochain, il y aura la 7e édition de Choose France. La France
devrait investissement des entreprises étrangères
en France. La France devrait être de nouveau le pays le plus attractif de l'Union européenne. Ça, c'est la preuve que la politique de l'offre menée par le président de la République depuis une dizaine d'années maintenant, elle porte ses fruits. Quand on regarde les crises passées, la crise du Covid, ça fait longtemps, mais enfin pour autant ça compte. La crise énergétique qui a fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a massivement été aux côtés des entreprises et de toutes les entreprises. On a été aux côtés des grandes entreprises, on a été aux côtés des petits artisans. Moi, je suis profondément convaincue qu'il faut continuer.
Elles sont inquiètes, les entreprises.
À être aux côtés des bonnes entreprises pour une raison très simple, c'est que avant de répartir la richesse, il faut la produire. Elle est produite par les entreprises.
Oui, mais le problème,
c'est
peut-être
trop taxée, c'est ça.
Et d'ailleurs, on nous a beaucoup reproché, si vous me permettez, d'être trop pro-business.
Je vous rassure, je ne vous considère pas trop pro-business, malheureusement, parce que je considère que le président, quand il a été élu en 2007, il a vécu une mission. Je veux dire, la plupart des gens l'ont élu parce qu'on a pensé que c'était un ponte, entre guillemets, en économie. Il avait une mission, c'était vraiment l'économie. On était déjà en galère sur le plan du chômage après, malheureusement, François Hollande. Et il avait que cette mission. Et vous n'êtes pas pro-business, c'est ça le problème. C'est que, oui, effectivement...
C'est pas vrai.
Non, mais c'est effectivement, pas vrai. On a des investisseurs qui arrivent. Mais par contre, nous, dans le quotidien, je veux dire, les petits chefs d'entreprise ou les salariés, on le ressent pas. Il devrait avoir une sorte de ruissellement, comme il nous l'a dit le président, c'est-à-dire que on attire des capitaux, top, ça crée des usines, des entreprises et tout. Hop, il y a une santé quelque part au niveau financier dans les portefeuilles des Français. Et là, c'est toujours pas ça. On est encore à 57% de la richesse produite en termes de taxation. C'est pas normal.
Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le déni du côté du gouvernement quand j'entends Roland Lescure nous expliquer l'économie française résiste, bon, très bien. Mais quand on regarde factuellement tous les indicateurs, ils sont dans le rouge. Hein. Le chômage est reparti à la hausse, la croissance est en berne, l'inflation va repartir à la hausse.
C'est plus un coq maintenant, la mascotte.
Effectivement, la pression fiscale ne baisse pas. Au contraire, les derniers budgets que vous avez fait passer, il y a des augmentations d'impôts. D'ailleurs, il y a plus d'augmentations d'impôts que de réductions de dépenses. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire la vérité aux Français? C'est-à-dire que vous allez finir ce quinquennat en grande difficulté économique?
Alors, l'économie française, elle tient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Et sur la question du chômage,
on continue de nous taxer.
Par exemple, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et ça démontre précisément.
Le chômage repart là-haut.
Et ça, je parle précisément de ça. Et ça démontre précisément qu'il faut continuer à être aux côtés des entreprises pour leur permettre d'embaucher. Un point sur le budget de l'année dernière. Vous dites, vous avez augmenté l'impôt des entreprises. Je me permets juste de préciser, il y a une surtaxe exceptionnelle qui concerne 300 entreprises.
Qui ne l'est plus, parce que vous la rencontrez chaque année.
Qui concerne 300 entreprises. C'est la deuxième année, voilà, effectivement, qu'elle était mise en place. C'est la deuxième année. Ça concerne 300
elle sera sans
très
doute
grandes,
là, la troisième année.
Très grandes entreprises. On a d'ailleurs exclu les ETI, de ce prélèvement exceptionnel pour 99% des entreprises, pour 99% des entrepreneurs de ce pays. Le cadre fiscal entre 2025 et 2026,
oui, mais ça fonctionne pas rester stable. Mais il faudrait baisser l'impôt sur la production. Beaucoup plus élevés qu'ailleurs.
J'entends, mais vous avez augmenté l'impôt des entreprises. Non, pour 99% des entreprises, le cadre fiscal.
Ils font travailler beaucoup d'entreprises.
Mais ce serait tellement génial que ça fonctionnait comme ça. Vous comprenez que ces grands groupes, elles travaillent avec des sous-traitants qui sont parfois des ETI, des ETI qui emploient des gens, des ETI qui facturent, qui font des prix.
Parce que ce ne sont que des mesures pour faire joli.
Je veux bien, parce que ça flatte, en fait, ça flatte effectivement peut-être une partie de la population d'entendre qu'on va taxer des gros groupes, des multinationales, ils se disent, ah bah oui, ils méritent, etc. Mais c'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je suis pas un gros groupe, mais je m'inquiète de savoir que des multinationales sont taxées parce qu'en fait, je sais qu'elles font vivre derrière des centaines de petites entreprises. Ces petites entreprises ont des salariés qui, elles, moi, parce que je travaille avec, par exemple, des particuliers, et ben, ces salariés-là, ils ont besoin d'un bon salaire pour me faire vivre, entre guillemets. Ben, je peux pas me réjouir de ça, vous comprenez? Et je comprends que vous fassiez cette distinction, mais l'économie, ce serait tellement bien si ça fonctionnait comme ça. Mais vous le savez que ça fonctionne pas comme ça. Et moi, ça me désole, en fait, que vous le sachiez quelque part, parce que, vous êtes très intelligente et vous êtes au gouvernement, donc vous savez bien plus de choses que moi. Et que vous puissiez donner ce discours en disant, non, c'est pas vous, c'est eux, etc. Et que certains se sentent, pas valorisés, mais en tout cas réconfortés par le fait que ça ne les touche pas.
Alors.
Ça nous touche tous.
Je modère quand même un peu ce que vous dites. Le fait de ne pas avoir touché à la fiscalité des TPE, des PME, des ETI, de l'ensemble des artisans, c'était un choix important. Et ensuite, il y a des contraintes budgétaires qui sont réelles, on en prend notre part, et qui ont amené à faire des choix. Il y avait une réalité qui était celle du Parlement, pas de majorité, ça nous a aussi amené à faire des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait en d'autres temps. Et dans ces choix... Eh bien, il y a eu celui de demander une contribution exceptionnelle, je le redis, aux grandes entreprises.
Pourquoi? Parce que
on ne veut pas couper n'importe comment dans les services publics essentiels comme l'école ou la santé, et parce qu'on a refusé d'augmenter les impôts des ménages. Les impôts des Français n'ont pas augmenté entre 2025 et 2026.
Heureusement, parce que la taxe foncière augmente chaque année, donc les impôts des propriétaires.
D'abord, heureusement, mais un, c'est un choix, et deux, ce n'est pas ce que l'ensemble des parlementaires ont proposé à l'Assemblée nationale. On a eu un certain nombre d'amendements qui visaient à augmenter les impôts. Donc, ne pas augmenter les impôts.
C'est la culture française.
C'est pas complètement consensuel en France, hein.
Dernière question, Laura.
Oui, alors moi je suis juste très très sceptique du gouvernement et du président. Ma question, c'est, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a bousculé en me disant que ils avaient fermé, que Fessenheim avait été fermé parce que Monsieur Macron avait écouté le peuple et qu'à un moment donné il se doit d'écouter parce que le peuple était inquiet. Mais dans ces cas-là, quand il a été, alors déjà par un coup d'orgueil qu'il a dissous l'Assemblée nationale et qu'il est complètement désavoué par le peuple, pourquoi dans ces cas-là ne s'est soit un pas retiré, soit deux écouter le peuple et mettre soit par rapport au nombre d'élus un premier ministre de gauche, soit par rapport à la quantité de votants un premier ministre Rassemblement National, parce que là, pour le coup, il a fait un déni de démocratie.
Alors, on peut refaire le débat éternellement sur la dissolution. Ce qui est sorti,
on est dans cet état-là à cause de la dissolution.
Sans donner les bons ou les mauvais points, ce qui sort de cette dissolution, c'est une absence de majorité pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le socle commun, donc la droite et le centre, c'est 200 députés. La gauche, ce qui était hier le NFP, je ne sais pas si ça existe encore, c'était environ 180-190 députés. Et le Rassemblement National, autour de 135 de mémoire. Donc, non, la gauche n'était pas majoritaire, ou en tout cas n'était pas supérieure en nombre à l'union de la droite et du centre. Ça, c'est faux. C'est une idée que la France Insoumise, notamment, a essayé d'imposer dans le débat public, mais c'est arithmétiquement faux.
Oui, ça c'est vrai.
Et ensuite, personne n'avait de majorité. Et donc, il a bien fallu trouver des moyens de discuter. Et ce sera encore le cas. Et ce sera encore le cas jusqu'en 2027. Et moi, j'espère, je vais vous dire,
le pouvoir.
J'espère qu'en 2027, les Français, peu importe le choix qu'ils feront un choix claire et avec une majorité claire derrière à l'Assemblée pour que ce pays
dissoudre,
pour que ce pays puisse avancer. Oui, mais ça, chacun comprend pour le coup.
Maud Bréjon, dans un second tour entre Mélenchon et Bardella, vous choisissez qui ?
L'angoisse. Ah, aujourd'hui, je refuse de me projeter dans cette hypothèse de second tour.
C'est une hypothèse possible.
En revanche, oui, c'est une hypothèse possible. Je vais même vous dire, c'est une hypothèse probable si on continue avec 2, 3, 4, 5, 6 candidats sur ce périmètre qui est la droite et du centre.
Qu'est-ce que vous choisissez ce second tour, vous faites ?
Mais je ne choisis pas.
Je dis votre candidat.
Je ne choisis pas, mais je dis pour cette raison à Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Yael Braun-Pivet, David Listard, liste non exhaustive. Mettez-vous d'accord, discutez, parce que sinon on devra répondre toutes et tous. On devra répondre toutes et tous à cette question.
C'est fini. On n'a plus le temps. Non, mais franchement, je pense que vous allez dans le mur avec ce truc. Il faut proposer aux Français un projet.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Qui soit intéressant. Si c'est juste de se dire, on se met tous ensemble sur le radeau de la Méduse, parce que sinon ce sera les extrêmes. Vous n'allez pas donner envie. Hein. Reagan disait, la politique, c'est l'art de donner envie. Il faut quand même proposer quelque chose d'un peu libre et d'un peu nouveau aux gens. Si c'est juste le centre agglutiné...
Actuellement.
Faites-le si vous voulez.
L'un n'empêche
je
pas l'autre.
Je pense que ça précipitera l'alternance.
L'un n'empêche pas l'autre. Et on a coutume de dire que la politique, ce n'est pas des mathématiques. Mais vous me permettrez quand même de dire qu'avec 10 candidats, personne
n'y aura pas dit s'il faut les signatures. Et
une dernière question, est-ce que Annie Genevard peut tenir encore au gouvernement après sa réunion avec le cercle de réflexion de l'entourage de Vincent Bolloré, avec l'ancienne directrice de RT qui était là, qui est une pro-Kremlin,
propagandiste à la botte de Vladimir Poutine.
Est-ce qu'elle peut tenir, Madame Genevard, encore au gouvernement ?
Elle s'est expliquée. Je pense qu'en tout état de cause, il ne faut pas que ça se reproduise.
Voilà, elle a fait une erreur.
C'est à elle de le dire. J'ai eu l'occasion déjà de devoir répondre à deux reprises au compte-rendu de Conseil des ministres hier. Elle a expliqué qu'elle n'était pas au courant des invités présents à ce moment-là. Bon, on viendra la prochaine fois de demander la liste des invités.
Merci Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'énergie. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on est à 48 heures de la finale de la Ligue des Champions. Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur, se dit serein. 8000 policiers déployés à Paris. Est-ce qu'il a raison de dire ça maintenant? 32-16 pour en discuter avec les GG, les midi moins 20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, midi moins le quart. Charles Consigny, Laura Barton-Martinez et Joël Dagosséry. On va terminer là, les 10 dernières minutes qui nous restent de discussion, à commencer à évoquer la finale de la Ligue des Champions avec ce que dit Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur.
Est-ce que vous avez des craintes autour de cette finale ?
On n'a pas de crainte. On a surtout un dispositif robuste. On est déterminé, serein au ministère de l'Intérieur.
Alors, vous entendez, dispositif
très bien.
Robuste, serein et déterminé au ministère de l'Intérieur. Alors, dispositif robuste et déterminé, ça pouvait passer. Alors après, le fait de dire serein, c'est autre chose, la sérénité.
Oui, mais surtout de dire on n'a pas de crainte. Si tu n'as pas de crainte, tu déploies pas 22 000 forces de l'ordre en France, 8 000 à Paris, pour un match qui n'a pas lieu en France. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler, que le match a lieu à Budapest. Donc tu déploies, on n'a jamais déployé autant de policiers pour un match qui n'avait pas lieu chez nous. Donc dire on est serein et qu'on ne s'attend pas au pire, Laurent Nunez, il devrait jouer la transparence. C'est pas un très bon communicant, mais on le voit une fois de plus. Il devrait dire oui, effectivement, on a des craintes, mais on va se donner tous les moyens pour éviter que la fête, s'il y a fête, parce qu'il y aura fête que s'il y a victoire parisienne, ne se transforme pas au cauchemar, parce qu'il y a deux moments forts.
De toute façon.
Il y a samedi. En plus, ce match est très tôt.
18h.
Donc, alors les gens vont boire assez tôt, et ensuite, il y a toute la soirée qui va être très longue. Et puis le lendemain, il y a aussi une célébration qui est prévue Champ de Mars, mais qui sera peut-être annulé si c'est le bazar
Joël,
de ce soir.
Parce qu'elle disait, on l'entendait dire non.
Que c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils vivent sur leur propre planète où tout est serein, tout est tranquille, on marche sous les aisselles, tranquille, pendant que dans le quartier, les gens commencent à fuir et à se barricader. Donc moi, j'ai regardé un peu mon quartier puisque je suis allée sur l'Instagram de la mairie du 16e.
Instagram.
Oui, exactement. Yeah, de la mairie du 16e qui a publié dans toutes les stations qui seront sont fermées, c'est très simple. À partir de 17h, je ne peux aller qu'au Franprix en bas de chez moi. Voilà, c'est parce que tout est fermé autour.
Oui, c'est-à-dire les champs Charles seront de Gaulle,
Argentine,
samedi soir.
Voilà, il y a les lignes 6, la ligne 1, enfin tout est, tu te dis mais oui, effectivement, il peut être serein puisque plus personne ne peut mettre un doigt à l'extérieur de sa fenêtre.
Un pied.
Donc oui, tout à fait. Doigt. Donc non, moi je suis pas sereine.
Non, juste un doigt.
Non,
un doigt de pied. Un doigt de pied.
Une tête?
Non, juste le doigt. Juste le doigt.
Coquine.
Tellement marrant. Ah, vous êtes grave. Enfin bref.
C'est la fin d'émission.
Ma fille qui souhaite regarder la finale et qui voulait sortir pour regarder la finale.
Elle peut aller au Parc des Princes.
Oui, non. Alors ça, c'est interdit.
C'est assez sécurisé, le Parc des Princes.
Je l'ai autorisé à aller chez son ami, donc pour regarder la, mais je l'ai obligé à dormir sur place. Oui, parce qu'il est hors de question qu'elle traverse Paris et qu'elle ressorte.
Charles, voilà. Est-ce que tu crois à la sérénité de Laurent Nunez? En tout cas, c'est ce qu'il affiche, ce qu'il veut afficher.
J'en sais rien. Je vois bien qu'il y aura autant de policiers que de manifestants et je constate que finalement le fil rouge de notre émission c'est quand même la racaillisation de notre pays et le fait qu'on a de plus en plus de mal à gérer cette jeunesse débordante qui faute d'être occupée à autre chose ne fait que casser, invectiver, se foutre sur la gueule entre elles.
La jeunesse, etc. Une partie.
Oui, bah, cette jeunesse-là, en tout cas. Et donc, moi, je pense qu'elle est bien mal employée à tout cela. Je l'enverrais volontiers nettoyer le porte-avions Charles de Gaulle dans la rade de Toulon. Je pense qu'on a besoin de reprendre en main ces jeunes racaillisés qui, à intervalles réguliers, foutent le bordel partout où ils passent. Donc c'est encore une preuve de ce phénomène qui n'a nullement été endigué ces 10 dernières années par ce bloc central qui cherche à tout prix sa reconduction.
Le pire en plus, c'est que tu sais, tu peux même pas fêter la victoire d'Arsenal en te disant au moins s'ils gagnent.
Ah non, parce que
tranquille. Non, parce que même en cas de défaite, t'es même pas sûr que ça se passe tranquillement. Moi, ce que je déplore, c'est vraiment cet empêchement pour la jeunesse normale, celle qui veut juste fêter. Par exemple, ma fille, clairement, elle voulait juste faire la fête. En fait, elle veut juste sortir. Et s'il gagne, faire la fête. Je la comprends. Elle veut une fête populaire, comme nous, on a connu à la finale de 98. Aller sur les champs, etc. Et l'année dernière, je lui ai dit non. Cette année, j'ai un peu autorisé parce qu'elle va chez une copine. Mais je veux dire, j'ai envie qu'elle fête. J'ai envie qu'elle puisse.
Et si elle te dit, je vais sur les Champs-Élysées.
Non, c'est hors de question. C'est hors de question. Là, elle m'a supplié. Je lui ai dit, d'accord, mais tu dors chez ta copine. Et c'est hors de question. Mais c'est pas ma volonté. Moi, je voudrais qu'elle fête, je voudrais qu'elle embrasse tout le monde sur les champs, qu'elle saute à pieds joints, etc. Mais c'est impossible que je laisse une fille de 16 ans aller fêter dehors. C'est inadmissible. Oui,
tu seras assez loin de Paris, heureusement. Quoi.
Oui, mais ça reste avant le Parisien.
Je serai à la Baule, j'espère que ça va bien se passer.
Non, en fait, ce qui est effarant,
moi,
c'est
d'aller à Deauville, ensuite à la Baule.
Je suis plus sûr de rien.
Ce qui est effarant, c'est qu'en fait, que toutes les occasions sont bonnes pour foutre le bordel, en fait. C'est pas une question de foot, tout est fait pour, et on en revient toujours au même problème. Donc, Charles disait la racaillisation, moi je dis la non-action de la justice à punir ces fauteurs de troubles. Mais après, ce qu'on peut regarder, c'est Monsieur Nunez. Voilà, là, je suis pour le coup d'accord maintenant avec Olivier. C'est on est serein. Vous inquiétez pas, on a des masques. Vous inquiétez pas, il y aura pas d'épidémie. Vous inquiétez pas, le chômage il va s'arrêter. Écoutez, à force de pas s'inquiéter, moi je trouve qu'on devrait s'inquiéter un petit peu quand même.
Si tu veux, de toute façon, c'est simple. Si tu veux voir si la population, notamment les commerçants, ont confiance en.
Ils vont tous se barricader.
Tu vas te balader sur les champs. Je vais aller faire un petit tour. Je vais voir si on est en train de mettre les planches de bois. Comme ils font avant.
Oui. T'as carrément des boîtes maintenant pour inventer des trucs jolis, transparents et tout.
Sur les vitrines. Et si effectivement personne n'est en train d'installer des planches de bois, je me dirais, ah oui, effectivement, là, on croit au gouvernement. Mais à chaque fois qu'ils ont fait ça, j'ai vu des planches de bois sur toutes les vitrines, notamment sur la même des Champs-Élysées. Donc, je crois qu'on ne vit pas sur la même planète, quoi.
Surtout qu'ils seront ouverts les Champs-Élysées demain.
Oui, mais ça, je trouve que c'est normal parce qu'il n'y a pas de raison. Sinon, c'est la tyrannie de la minorité.
D'accord.
Je suis désolé. Il y a une victoire. S'il y a une victoire de l'équipe parisienne, c'est normal que les champs soient ouverts.
C'est pas la tyrannie de la minorité. C'est comment tu protèges la minorité, la majorité.
Eh bien, c'est le boulot de l'État. Ouais,
mais justement,
l'État.
C'est pour ça qu'on paye des impôts de base.
C'est une mission régalienne.
C'est d'autant plus compliqué que le match est à 18h si tout se passe bien. À 19h45, 20h, c'est fini.
Donc c'est d'autant plus compliqué pour sécuriser les Champs-Élysées. Mais on dit qu'on va les laisser accessibles, d'accord. Mais si la majorité des gens ou des touristes qui sont là tranquilles, d'un coup, ils voient arriver des milliers de personnes et que ce sont des terrasses qui sont saccagées, des terrasses qui sont renversées, bah alors
pourquoi pas faire une géante fan zone sur le Champ de Mars avec portique de sécurité.
Non, c'est le samedi.
La fan zone a été refusée, elle avait été demandée
sur le Champ de Mars.
Pour moi je trouve ça plus logique, comme tous les gens qui veulent faire le truc de manière sereine.
Deux choses différentes. La fan zone c'était pour le match et elle avait été demandée par la mairie de Paris, refusée par le préfet de police de Paris, monsieur Faure. Le Champ de Mars c'est le lendemain, c'est pour la célébration, mais elle n'aura lieu que si ça se passe bien la veille.
Oui, mais là, regarde.
Les Champs-Élysées, je suis désolé, les Champs-Élysées c'est le lieu pour fêter les victoires 98, les victoires parisiennes.
Oui, mais on sait que ça ne se passe pas bien.
Mais si ça se passe bien, c'est la responsabilité de l'État, je suis désolé. Pardon. Ou alors, dans ce cas-là, M. Nunez, il démissionne. Si ça ne se passe pas bien, lundi, il remet sa démission.
Au lieu d'une fan zone, une zone fête où justement tout le monde peut s'amuser.
Ça s'est pas passé bien l'année dernière.
Ou c'est ensuite, tu passes le portique de sécurité et là, on n'entendra plus quand on a qui se fait agresser, parce que maintenant ils se font agresser par les policiers, ils ne sont plus réprimandés, ils se font agresser, tu lui dis qu'est-ce que tu foutais là si tu voulais faire le truc tranquillement et tout, que tu as demandé à personne.
Laurent Nunez, serein, est-ce que vous partagez cet avis, est-ce que vous partagez sa sérénité avant la Ligue des Champions? Non, 81%. Voilà, c'est fait, c'est dit. On se retrouve demain avec Emmanuel De Villiers, Abel Boyiz, Or Habitant. Et nous serons avec notre confrère Frédéric Ploquin, vous savez, le spécialiste du grand banditisme de la police. Il a enquêté sur les réseaux Epstein, mais le réseau parisien. Il a retrouvé des témoins. Pourquoi est-ce qu'Epstein aimait tellement venir à Paris? Que se passait-il à Paris?
Demande.
C'est pour les Champs-Élysées, non?
Donc, notre ami Ploquin, Frédéric Ploquin, a remonté tout le réseau Epstein et il viendra nous raconter ça demain. Bon.